Bonjour et bienvenue sur La Voie Verte, le podcast qui vous accompagne sur le chemin d'une vie plus verte. Nous sommes Julie et Laetitia, les créatrices de ce podcast. Potager, plantes vertes, jardinage urbain, compost, cueillette sauvage. Dans chaque épisode, nous abordons un thème lié au monde végétal avec un ou une invitée. À travers ces interviews, nous vous donnons des conseils pratiques pour prendre soin de vos plantes et explorons ensemble le monde fascinant de la nature vivante. La Voie Verte est le podcast de Vert Magazine, le mag des néo-jardiniers, que nous avons fondé toutes les deux. Ce magazine papier indépendant est dédié au jardinage, aux plantes et à la nature et sort tous les trimestres. Pour en savoir plus, direction Vert Magazine, veirmagazine.com. Allez hop, c'est parti pour la classe verte!
Hello à tous, ici Laetitia. Dans cet épisode, j'accueille Marion Ignus et Alice Lamoureux, les fondatrices de Alma Grown in Town, une jardinerie urbaine située dans le 11e arrondissement à Paris. Alma propose des plantes et des outils adaptés au mode de vie urbain pour faire pousser sainement des plantes, des légumes ou des fleurs sur un balcon, un bout de terrasse ou dans un appartement. Elle donne aussi des ateliers dédiés aux plantes vertes et au jardinage urbain. Dans cet épisode, on se concentre sur un sujet crucial pour tout jardinier, l'arrosage. Elle nous explique comment bien arroser ses plantes, notamment lorsqu'on habite en ville, et répond enfin à la question que tout le monde se pose, mais comment fait-on quand on part en vacances ? Place à l'épisode ! Bonjour Marion et Alice !
Bonjour Laetitia !
Bonjour !
Merci beaucoup à toutes les deux d'être là aujourd'hui dans cet épisode de La Voie Verte. Alors on se connaît un petit peu, mais virtuellement, parce qu'on n'a pas encore eu la chance de vous rencontrer en chair et en os. Vous êtes à Paris et nous, on est en province. Mais on collabore en fait tous les trimestres au sein de Vert Magazine, dans lequel vous signez un article récurrent qui s'appelle « SOS plantes en détresse ». Et dans cet article, vous nous aidez à analyser les signes de détresse de nos plantes. On y parle d'ailleurs autant de plantes d'intérieur que de plantes du potager. Et avec vous, on apprend à comprendre ce qui ne va pas quand il y a des feuilles qui jaunissent, des petites bébêtes un peu bizarres, et à trouver le bon remède pour faire face au problème, et de manière toujours naturelle. Vous êtes en effet des expertes des plantes, hein, en prendre soin et votre métier. On va en parler un petit peu après. Et aujourd'hui, au-delà de votre métier, on va essayer de se concentrer sur une thématique qui est l'arrosage, qui est un sujet très important pour les amateurs de plantes. Plus compliqué qu'il n'y paraît, parce que même quand on est plus débutant, quand on s'y connaît un peu, on fait encore des erreurs d'arrosage, c'est vraiment un sujet un peu infini. Et c'est aussi un sujet qui est de plus en plus crucial avec les températures qui montent, les canicules qui se succèdent, et d'autant plus quand on est en ville. Donc il y a plein de choses à aborder, j'espère que vous êtes prêtes.
Oui, bien sûr, on est prêtes, plus que jamais.
Super. Alors, avant d'attaquer le vif du sujet, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter toutes les deux, chacune votre tour, et puis nous expliquer ce que vous faites dans la vie et pourquoi je dis que vous êtes des expertes des plantes.
Alors, bonjour Laetitia. Déjà, nous tenons à te remercier de nous accueillir dans ce tout nouveau podcast qu'on adore déjà.
Ben, merci.
C'est toujours un plaisir de collaborer avec vous.
Super.
Donc, moi, je suis Marion. Je viens du monde du conseil en environnement.
Et moi, Alice, pareil, c'est une reconversion, puisqu'avant, je faisais du marketing dans l'agroalimentaire et la grande distribution, donc plutôt la petite bête noire.
D'accord.
Voilà, on a un peu changé de vie en créant Alma.
Et du coup, qu'est-ce que Alma ?
Alma, c'est une jardinerie urbaine 100% dédiée aux citadins. Donc, on a une boutique à Bastille, quartier Bastille, rue Keller, et on a aussi un e-shop. Et ça fait 2 ans maintenant qu'on est ouvert.
Ok, super. Et Alma, donc j'ai percuté en préparant l'interview que c'était Alice et Marion, en fait, c'est ça ?
Oui, bien sûr. C'est par hasard, en fait. Non, Alma, ça veut dire plein de belles choses. Ça veut dire aussi nourricière en latin, c'est ce qui nous a plu. Ça veut dire âme en espagnol, portugais, etc. Mais oui, en effet, Alma, Alice, Marion, ça marchait plutôt bien. Donc, on est parti là-dessus.
Ok. Et qu'est-ce qu'on trouve dans votre boutique et sur votre e-shop ?
Qu'est-ce qu'on peut trouver dans notre boutique et notre e-shop ? En fait, on va trouver plein d'objets, des outils, des accessoires de jardinage. Ils sont esthétiques, pratiques, ils sont dédiés aux citadins. Donc, ça va être un sac de terreau pratique, petit pour transporter au 5e étage. Ça va être une jardinière à réservoir d'eau parce que tous les citadins partent 3 semaines en vacances et c'est pour éviter que tout meure à la rentrée. On va... Voilà, ça, je pense que tu connais un petit peu aussi. Donc, on va avoir plein d'objets pratiques, esthétiques pour nos petits appartements.
Pour jardiner et à la fois pour l'intérieur, l'extérieur, le rebord de fenêtre, le potager, vous couvrez un peu tous les sujets ?
Voilà, on va couvrir aussi bien l'intérieur avec les plantes vertes que l'extérieur avec tout ce qui est ornemental ou potager. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va trouver physiquement dans la boutique. À côté de ça, on anime aussi des ateliers, parce que c'est pas tout d'être bien équipé, mais il faut aussi savoir s'en servir. Mmh. Donc là, on va avoir des ateliers sur la thématique du jardinage urbain et aussi des ateliers sur la thématique de l'entretien des plantes vertes. Et donc là, on va avoir plusieurs niveaux sur chaque thématique.
Okay.
On propose aussi des prestations de végétalisation de balcons et terrasses sur mesure.
D'accord, super.
Dans le cas où on a pas envie de le faire soi-même ou surtout si l'espace est trop grand. Donc là, on intervient.
Donc comme un petit peu des paysagistes, enfin, vous imaginez qu'est-ce qu'on va planter ou d'accord.
Voilà, on prend la demande du client, c'est simplement de l'ornemental ou partir sur un petit potager pour un enfant, des choses comme ça, la surface, on regarde ensemble des photos, on vient sur place, on fait un devis et selon le projet demandé, on part avec le client.
Et je crois que vous, votre idée, c'était aussi de montrer qu'on peut produire et manger des légumes made in Paris, finalement.
Notre idée, c'est de permettre aux citadins de faire pousser eux-mêmes leurs fruits et légumes. C'est pour ça qu'on va vendre des graines bio reproductibles et des plants qu'on a semés nous-mêmes ou bien qui proviennent d'une pépinière parisienne. Donc, il y a toujours des variétés très adaptées à la culture en ville.
D'accord. C'est vraiment le focus, c'est pour les urbains, pour les Parisiens, du coup, puisque vous êtes à Paris, et puis les autres via l'e-shop.
Exactement. Ouais.
Et puis, petite précision, notre objectif, c'est pas que nos clients se nourrissent de ce qu'ils cultivent, en fait, sur un rebord de fenêtre ou un balcon, ce serait un petit peu prétentieux de dire ça. Mais nous, on se dit que en cultivant tes propres tomates, par exemple, tu vas peut-être en récolter qu'une vingtaine. Mais tu vas prendre conscience de tout le temps qu'il faut à un agriculteur, entre guillemets, pour cultiver cette tomate. C'est-à-dire que voilà, tu vas semer les graines, il va se passer 5 mois avant que tu récoltes potentiellement ta première tomate. Tu vas voir que le goût est vraiment différent. Tu vas avoir des petites attaques de maladies, de nuisibles, de champignons, etc. qu'il va falloir traiter naturellement. Donc voilà, c'est ça qu'on veut insuffler en fait en ville. C'est de dire aux urbains, cultiver en ville, c'est possible, ça ne va pas vous nourrir, mais vous allez prendre un plaisir fou et vous allez vous rendre compte, en fait, de la valeur de votre alimentation, en fait, des fruits et légumes que vous allez acheter chez le primeur. Tout ça, ça prend du temps, surtout quand c'est naturel. Donc voilà, c'est ça vraiment notre mission avec Alma.
Ok, super. Bon, bah passons maintenant, du coup, au vif du sujet de l'épisode, qui est donc l'arrosage. Et pour bien comprendre, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on arrose les plantes et à quoi sert l'eau qu'on leur fournit lorsqu'on les arrose ?
Alors, pourquoi on arrose les plantes ? Je dirais que c'est une question de survie, en fait, pour la plante. Elle ne pourrait pas vraiment vivre sans eau, tout simplement parce que, comme la lumière ou le gaz carbonique, l'eau, ça permet, en fait, d'activer le processus de photosynthèse. La photosynthèse, c'est la manière dont la plante va produire sa propre énergie et va pouvoir donc grandir. Voilà, et puis la plante, on ne le sait pas toujours, mais en fait, elle est constituée à 85% d'eau. Donc, c'est vraiment un élément essentiel. La façon dont ça se passe, c'est que les racines vont absorber l'eau qui est dans le sol. L'eau, au passage, va capter les minéraux, les nutriments, etc., qui se trouvent dans le sol. Quand elle va rentrer dans la plante, en fait, elle va se transformer en ce qu'on appelle la sève brute. Et ça remonte en fait dans les feuilles, dans les tiges, etc. Et ça alimente la photosynthèse. Donc c'est comme ça qu'après la plante, avec la lumière, le gaz carbonique, etc., arrive à produire sa propre énergie.
Sans eau, la plante ne grandit pas et même elle meurt à terme.
Exactement. Elle n'a plus d'énergie en fait. Donc elle ne peut plus du tout se développer, elle ne peut pas survivre. Et d'ailleurs, on le verra sûrement après, mais une plante qui n'a pas d'eau, c'est une plante qui ne peut plus avoir sa tonicité, en fait. C'est-à-dire que quand elle aspire l'eau très très fort, en fait, il n'y a pas de cœur dans la plante, il n'y a pas de système de pompe. Donc, pour aspirer l'eau, en fait, c'est toutes les cellules qui vont vraiment se serrer pour que l'eau remonte jusqu'aux tiges, jusqu'aux feuilles. Et c'est ça qui fait que la tige est bien droite, les feuilles sont bien développées. Et d'ailleurs, quand les feuilles sont bien développées, c'est là qu'elles captent le mieux la lumière. Une plante qui n'a plus d'eau, elle devient toute molle, ses feuilles piquent du nez et à la fin, elle meurt.
Ok, donc tu réponds effectivement un petit peu à une de mes questions suivantes qui était comment est-ce qu'on reconnaît qu'une plante a soif ? Alors, il y a peut-être d'autres signes, mais en tout cas, un premier symptôme, c'est des feuilles un peu mollassonnes qui piquent un peu du nez, une plante qui fait un peu triste mine.
Exactement. C'est vraiment une plante qui perd sa tonicité. C'est voilà, une plante qui ramollit, les feuilles qui piquent du nez. Il y a certaines plantes, notamment, je pense à la famille des Calathea, dans les plantes d'intérieur, qui vont voir leurs feuilles complètement, en fait, s'enrouler. Enfin, tout se ratatine, en fait. Et voilà, la plante est en train de dépérir à petit feu. Parce que sans eau, elle ne produit plus d'énergie.
Et alors du coup, comment faire déjà pour bien arroser ces plantes un peu, alors, la question est très vaste, hein, mais déjà les conseils un peu de base, le béaba. Et pourquoi du coup, c'est quand même assez difficile de savoir comment les arroser, quand les arroser. Là, on a parlé des signes de soif d'une plante, mais parfois, il y a certains symptômes, on ne sait pas trop si c'est qu'elles ont soif, au contraire, qu'elles ont trop d'eau. D'autres symptômes qui peut-être ne sont pas du tout liés à l'arrosage, mais qu'on interprète comme étant liés à l'arrosage. Des feuilles qui jaunissent, qui sèchent. Enfin, voilà, il y a plein de choses qu'on observe, qu'on ne sait pas trop comment lier. Comment déjà, quelles sont les bases un peu pour déjà comprendre ça et faire un arrosage déjà correct?
Alors, on va donner des tips en fait pour arroser les plantes. Mais avant de nous lancer dans ces tips, faut déjà un petit peu comprendre comment ça se passe dans le pot de la plante finalement. C'est là où se trouvent les racines, c'est les racines qui vont aller chercher l'eau.
Ouais.
Donc, en fait, quand on habite en ville, nos plantes, elles sont dans des contenants hors sol. Donc, les racines, elles sont contenues dans ce pot. Elles ont un espace assez réduit et elles n'ont pas la capacité d'aller puiser l'eau par elles-mêmes dans le sol. Donc, voilà, ça, c'est déjà un élément. Il faut voir aussi que, avec l'évaporation et la chaleur dans nos appartements ou à l'extérieur, l'évaporation va être d'autant plus rapide dans un petit pot, par exemple. Donc elles vont être les plantes. Il faut voir que comme elles peuvent, les racines ne peuvent pas les chercher en profondeur, elles vont être totalement dépendantes de nous. Et comme la quantité d'eau nécessaire à une plante dépend d'énormément de facteurs, les facteurs ça va être la variété de la plante, la qualité du terreau, l'exposition, la température extérieure, etc. En fait, c'est assez difficile de savoir exactement quand et comment arroser ces plantes.
C'est ça. C'est pour ça que je fais une petite parenthèse, mais c'est vrai que nous dans le magazine. On essaye de pas trop mettre des conseils de fréquence d'arrosage très précises ou quoi, parce que ça dépend. Enfin, c'est impossible en fait. On peut pas dire une plante arrosée là une fois tous les 4 jours et demi. J'imagine que ça dépend de trop de facteurs et il vaut mieux essayer de bien comprendre comment ça fonctionne et bien identifier ce qui se passe dans la plante pour adapter son arrosage.
Exactement, c'est exactement ce qu'on dit. Déjà, ça va dépendre de la variété de la plante. Alors, de temps en temps, selon la variété, si c'est une Calathea qui est plus gourmand en eau qu'un ficus ou, ne parlons même pas des succulents ou cactus, oui, là, on peut donner des informations, mais on ne connaît pas la température qu'il y a chez les personnes, on ne connaît pas non plus les quantités d'eau qu'elles mettent à chaque fois, etc. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas s'aventurer sur mettez 300 millilitres d'eau tous les 5 jours, etc. Surtout hiver, été, voilà, ce n'est pas la même chose. Donc, déjà, la première chose à garder en tête, c'est qu'une plante survivra toujours mieux un manque d'arrosage qu'un trop plein d'eau.
Quand on est débutant, on fait souvent l'inverse. On donne souvent trop d'eau.
Ouais, c'est clair que, on va dire, 90% du temps, c'est le problème, c'est le trop plein d'eau. Et en fait, pourquoi elle survivra mieux ainsi? Tout simplement parce que si le terreau n'arrive plus à sécher, il va commencer à pourrir. Et un terreau qui pourrit, il asphyxie les racines. Donc, si les racines sont asphyxiées, autant dire que c'est foutu pour la plante. Donc, il y a 2-3 choses à faire déjà pour anticiper ce problème-là. C'est qu'on rempote toujours dans un pot percé pour que l'excédent d'eau puisse s'écouler. Et on dispose évidemment une couche de bille d'argile ou de drainage au fond du pot. En fait, il faut voir un peu comme si on mettait des cailloux sous une éponge. Ça permet de faire sortir l'eau de l'éponge. Là, c'est la même chose. Il faut voir que l'eau dans le terreau, il faut qu'elle sorte. Il faut qu'on l'incite à sortir, surtout pour pas qu'elle stagne. Et pareil avec les soucoupes, évidemment. On ne laisse jamais d'eau stagnante dans les soucoupes ou au fond des cache-pots.
Oui, parce que tu parlais de pots troués, etc. Mais est-ce que ce n'est pas le cas par défaut en jardinerie quand on achète une plante ou est-ce qu'il vaut mieux peut-être vérifier?
Alors, si la plante est dans son pot de culture, elle est toujours percée, même si c'est du plastique. Alors, ça ne respire peut-être pas aussi bien que la terre cuite, mais normalement, ils sont toujours percés. C'est surtout, quoi que tu as raison, il y a de temps en temps, on trouve des plantes dans des cache-pots parce qu'ils sont jolis, etc. Et en fait... c'est un crime.
C'est ça. C'est vrai qu'en général, c'est le cas, mais à la limite, c'est plus prudent de vérifier quand vous achetez une plante en jardinerie. Peut-être on regarde en dessous si le pot est bien percé. Et puis de toute façon, comme souvent, on va être amené à la rempoter tôt ou tard après l'achat. C'est là où on fait bien attention de ne pas prendre directement ce qu'on appelle un cache-pot, qui est en fait un pot non percé qu'on peut mettre quand même autour du pot, du premier pot, hein, on est d'accord. Mmh. Mais le pot dans lequel est vraiment la plante, celui-là doit être percé.
En fait, le cache-pot, il va intéresser parce qu'il est, on va dire, esthétiquement, on peut avoir un peu plus de fantaisie, comme on va poser un émail autour de la faïence du pot. On va pouvoir faire des dessins, de la peinture, etc. Alors qu'un pot en terre cuite, il est poreux, ça respire. Et par contre, bah, là, on ne va pas pouvoir s'amuser à faire des petits visuels.
Ok, donc du coup, si on a déjà notre pot bien percé, nos billes d'argile au fond et notre coupelle qu'on vide régulièrement, est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir comme ça sur vraiment les bases de l'arrosage?
Alors, pour nous, la chose à savoir, c'est une solution imparable, c'est de plonger son doigt dans le terreau. Parfois, le terreau, on touche un peu au-dessus, à fleur de terreau, on pose nos doigts et on voit que c'est sec. Donc, on arrose et on y arrose généreusement. Et en fait, le fait de ne pas plonger son doigt, hein, c'est vraiment plonger un peu à la moitié du doigt ou voilà, le début du doigt, c'est de permettre de voir si l'intérieur du pot est humide. Donc, de voir tout simplement si autour des racines, le chignon racinaire, il est un petit peu plus bas, si autour des racines, le terreau est humidifié ou non. Non, parce que parfois, c'est complètement sec au-dessus et dessous, c'est trempé. Et du coup, quand on rajoute de l'eau, ça vient encore plus détremper les racines.
Et si on sent que c'est un tout petit peu humide, c'est bon, c'est que ça suffit, on attend encore un peu avant d'arroser?
Oui, si c'est un petit peu humide, on peut laisser jusqu'à ce que le terreau soit complètement sec. Alors là, c'est là où il faut absolument, quand on achète une plante, poser la question au vendeur, parce que selon le type de plante, il y a des plantes qui vont très mal vivre un terreau complètement sec, c'est très rare. Ça c'est pour ça qu'il est important de demander. Mais de manière générale, il vaut mieux attendre que les terreaux soient secs avant d'arroser à nouveau. On attend 2-3 jours, on voit bien qu'il fait frais, en fait, c'est un terreau qui est frais. Du moment où le terreau n'est plus frais, on arrose. Et voilà, on ne s'amuse pas à laisser un terreau sec 5 jours. Ça va stresser la plante, c'est un stress qui est inutile, surtout si on est là et qu'on fait attention, il faut y aller tout de suite.
Ok. Et tout à l'heure, on disait donc que souvent on arrose peut-être trop, notamment lorsqu'on est débutant. Si vraiment on a trop arrosé, c'est rattrapable ou c'est un peu fichu?
Alors, si on a trop arrosé, on va rempoter notre plante. Imaginons un piléa qui est sensible au trop plein d'eau. Oui. Quelqu'un qui n'est pas forcément au courant va y aller parce qu'il veut bien faire, etc. Schéma un petit peu classique. Là, on ne va pas s'amuser à attendre de voir comment se comporte le piléa. Donc, on se rend compte qu'on a fait que c'était pas la chose à faire. On rempote, on prend du nouveau terreau, on rempote et on recommence notre arrosage très léger.
Ok.
En fait, parce que le terreau n'arrivera pas à sécher par lui-même, ou alors il mettra trop de temps à sécher.
Ouais.
De faire pourrir les racines, en fait.
Ok. Et si à l'inverse, on se rend compte que on a un peu oublié la plante et que là, elle est restée dans son terreau sec pendant un petit peu trop longtemps, du coup, on en met plus d'un coup ou c'est juste on reprend?
Alors, à l'inverse aussi, enfin, c'est pareil, c'est-à-dire que le rempotage, c'est quand même un très bon moyen de renouveler le terreau, parce qu'en fait, un terreau qui s'est complètement asséché, c'est un terreau qui s'est rétracté. Souvent, on voit, il se décolle en fait,
oui,
les parois du
terreau.
C'est
vrai. Ouais.
Il s'allège complètement. On peut presque sortir la plante en fait en tirant un tout petit peu. Un terreau qui est arrivé à ce stade-là. C'est un terreau qui généralement a perdu toutes ses capacités de rétention d'eau en fait, et on le voit quand on essaie d'arroser à nouveau par le haut, en fait ça déborde parce que le terreau n'arrive plus à absorber.
D'accord. C'est ce qu'on voit quand parfois en fait on arrose et puis l'eau on a l'impression qu'elle passe un peu sur les côtés et qu'elle pénètre pas finalement dans la motte de terre, quoi.
Exactement. Mmh. Or c'est un bon point, il est très important quand on arrose une plante que tout le terreau soit humidifié. Pas seulement les côtés, mais pas seulement le pied de la plante. Parce que le chignon racinaire, on le voit quand on fait des rempotages, lui, il prend tout l'espace dans le pot. Donc si on arrose que le pied, il y a toute une partie du chignon racinaire qui ne recevra pas d'eau. Et si, au contraire, on a un terreau qui est hyper sec et que la terre passe seulement sur les côtés, ben, pareil, tout le chignon racinaire au centre n'aura pas d'eau.
Ok, et ça c'est le cas un peu extrême, mais parfois on voit aussi qu'il y a une sorte de croûte qui s'est formée un peu à la surface, mais peut-être que le terreau en dessous n'est pas totalement fichu. Est-ce qu'on peut un peu, je sais pas, gratter un petit peu, faire en sorte que la croûte sèche du dessus soit un peu remuée pour que l'eau circule mieux?
Tout à fait, on peut gratter un peu, et souvent ça arrive quand on arrose avec l'eau du robinet, parce que c'est une eau qui est, en tout cas à Paris, assez dure, pas mal de calcaire. Donc, en plus d'avoir une petite croûte, tu as une petite croûte blanche qui empêche aussi un petit peu le terreau de respirer. Donc, on peut en fait gratter cette croûte-là et faire ce qu'on appelle un surfaçage, remettre du terreau ou profiter de ce surfaçage pour mettre un peu de compost sur les quelques centimètres au-dessus du terreau pour remplacer celui qu'on a enlevé. Mais voilà, une plante qui s'est vraiment asséchée, nous, on conseillera toujours de la rempoter, mais on peut, si jamais c'est arrivé une fois, un petit stress hydrique, on évite en fait d'arroser d'un coup très généreusement. Et ça, c'est une des erreurs faites qui est classique, c'est créer des stress hydriques en fait à répétition. C'est-à-dire, j'ai oublié ma plante, oh, le stress, je fais 2 litres d'eau, je la noie, là, elle n'arrive plus à sécher, donc je la laisse encore. Enfin, en fait, une plante, elle va peut-être survivre 4-5 fois, et puis la 5e fois, elle va vous dire stop, quoi. Et donc, elle va mourir.
Je vais dire une dernière chose sur lorsqu'on n'arrose pas une plante pendant très longtemps, donc le terreau est très asséché, très compact. Si jamais on ne change pas le terreau, lorsqu'on arrose, l'eau va sortir tout de suite. Elle n'aura pas le temps d'être imprégnée. Donc là, dans ce cas-là, le mieux, c'est de faire un arrosage en plusieurs fois. On peut mettre de l'eau et ça sort tout de suite par le bas ou sur les côtés. Ça fait comme du sable, si vous voulez. Il n'y a aucune capacité de rétention d'eau. Donc si on choisit de ne pas changer le terreau, dans ce cas-là, il faut aider le terreau à se gorger d'eau petit à petit et donc le faire en plusieurs fois.
En plusieurs fois, et est-ce que peut-être aussi là de la mettre dans une bassine d'eau, de l'arroser par en dessous, ça peut être utile aussi.
Ça, c'est très bien, justement dans ces cas-là. On la met dans une bassine pendant 15 minutes, le temps que la motte de terre puisse boire par le bas ou même sur les côtés un petit peu si c'est un pot en terre cuite. La terre cuite, c'est poreux, donc ça peut, l'eau peut pénétrer dans la terre cuite et venir hydrater le terreau. Donc, c'est sûr que le bassinage, c'est une super technique en cas de stress hydrique dans ce genre. Et si on est sur des plantes type Calathea, une petite douche peut faire du bien aussi. Donc, une douche, ça se fait à température ambiante, avec le pommeau retourné vers le haut, enfin, tourné vers le haut, du coup, pour que ça fasse une sorte de plus en pression, qui tombe sur les feuilles, parce que les feuilles ont aussi besoin de boire, donc la brumisation, c'est important pour ce type de plante, de boire par les feuilles, en plus, attention, de l'arrosage dans le pot. Mm-hmm. Et donc, dans ce cas-là, on n'hésite pas à bassiner sa plante et lui donner une petite douche, et normalement, on devrait repartir de bon pied.
Ça, c'est pour toutes les plantes qu'on peut faire ou tu disais plutôt certains types de plantes ?
Pas toutes les plantes, non. Ça va être des plantes qui sont très sensibles au stress hydrique, comme les Calathea, les Alocasia.
Les plantes tropicales, en gros. Les cactus et les succulentes, jamais, jamais, jamais de brumisation sur la plante parce qu'elles ont déjà fait leurs propres réserves. Et à l'extérieur, c'est encore différent au potager. Enfin, en fait, on pourrait avoir un arrosage par plante, c'est dingue, mais au potager, on n'arrose jamais le feuillage parce que en fait, c'est ce qui favorise les maladies fongiques.
Donc, si on veut simplifier un peu, j'imagine qu'il y a plein d'autres subtilités, mais en gros, ça serait les plantes tropicales, elles, on les arrose déjà de manière un petit peu plus conséquente, on les bassine et on les brumise, on les douche. Cactus et succulentes, là, c'est uniquement un petit peu d'arrosage. Alors, s'il y en a qui veulent en savoir plus d'ailleurs sur les cactus et comment les arroser, etc., on a un épisode avec Mélanie Lily, qui était l'épisode précédent du podcast, où on parle pas mal de ce sujet, parce que là, on n'aura pas le temps de tout traiter, mais en tout cas, on arrose un petit peu moins, et surtout, on ne brumise pas. Et au potager, on arrose quand même de manière conséquente, j'imagine, mais par contre, on ne brumise pas pour pas générer de maladies. Et est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir, comme ça, sur les grandes différences entre les types de plantes ?
Non, c'est assez bien résumé déjà d'avoir ces bases-là, mais en fait, je pense que pour comprendre l'arrosage, il faut aussi juste se dire d'où vient ma plante, quel est son milieu naturel. Une plante tropicale, elle vient de la forêt tropicale. Donc là, dans la forêt tropicale, le taux d'hygrométrie avoisine les 80%. Or, chez nous, au maximum, on a peut-être 50% d'humidité, et puis ça va vraiment chuter en hiver. Avec notre chauffage, etc. Donc voilà, il faut se dire comment je recrée un petit peu les conditions idéales pour ma plante et comment j'arrose en conséquence parce qu'elles ne viennent pas toujours de notre climat à nous.
Ouais, donc toujours, bah ça c'est vrai que c'est un conseil un peu général hein, pour bien s'occuper de ses plantes, nous on le rappelle aussi dans le magazine, toujours essayer de replacer la plante dans son contexte d'origine, son milieu naturel, son environnement, et de lui apporter le plus possible quelque chose de proche de ce qu'elle aime à la base.
Exactement.
Et puis pour finir là-dessus, une plante, elle parle, donc c'est... les plantes elles sont vivantes, donc on les observe. Si elle est trop ou pas assez arrosée, elle envoie généralement des signaux.
Et alors, vous avez parlé tout à l'heure rapidement de l'eau du robinet, notamment à Paris. Est-ce que on peut arroser avec l'eau du robinet ? J'imagine que c'est ce que font la plupart des gens quand même. Est-ce qu'il y a d'autres types d'eau qui sont plus adaptés ? Est-ce qu'on peut rajouter peut-être des choses dans l'eau pour l'améliorer ?
Alors oui, on peut arroser avec l'eau du robinet. C'est ce que, comme tu dis, hein, tout le monde fait généralement. Alors selon les villes, hein, l'eau est plus ou moins dure. À Paris, elle est très dure, donc il y a quand même pas mal de calcaire. C'est ça qu'on voit, en fait, le petit dépôt blanchâtre qu'il y a sur le terreau, ou parfois sur les feuilles, d'ailleurs. Alors, quand on brumise une plante tropicale avec de l'eau du robinet, on retrouve des petites taches blanches qui ne sont pas des maladies, qui sont tout simplement du calcaire. Mmh. Et on prend souvent l'exemple du pilea. Le pilea, par les petits trous de ses feuilles, en fait, va rejeter du calcaire. Donc, on voit plein de petits points blancs. Et souvent, on nous demande si c'est un nuisible. Et pas du tout, en fait. C'est juste que le pilea va... Les plantes transpirent, en fait. Et le pilea, quand il transpire, on va retrouver du calcaire, en fait, par petits points sur ses feuilles.
D'accord. Et ça, c'est embêtant ou...
Le calcaire, c'est pas très, très grave. En soi, on peut l'enlever avec une petite éponge, etc. C'est pas ça qui va empêcher la croissance, mais ça peut, à la longue, ralentir un peu la croissance des plantes. Mais, enfin, je sais qu'on parle beaucoup de mettre du charbon dans l'eau, etc. Scientifiquement, ça n'a pas été prouvé à 100% qu'en mettant du charbon dans l'eau, le calcaire allait vraiment partir. À moins d'avoir un adoucisseur d'eau ou d'avoir une carafine 30 pour ces plantes. Bon, on a tendance à dire utilisez l'eau du robinet et puis vous ferez attention à bien nettoyer votre plante de temps en temps, quoi, et à enlever cette fameuse petite croûte blanche.
D'accord. Et est-ce qu'on peut aussi récupérer des eaux utilisées ? Je pense par exemple déjà au reste de thé, quand il y en reste dans la théière, à des eaux qu'on utilise pour faire cuire les légumes, à l'eau du sèche-linge pour ceux qui en ont un. Qu'il y a des eaux qu'on peut utiliser comme ça pour ne pas gaspiller trop d'eau.
Tout à fait. Les eaux de cuisson, par exemple, de nos légumes, c'est des eaux très très bonnes. En fait, elles sont bourrées de nutriments. La seule condition, c'est qu'il ne faut pas saler son eau. Donc voilà, si l'eau n'est pas salée, vous la laissez redescendre à température ambiante et vous arrosez avec l'eau de cuisson, c'est bourré de nutriments, c'est hyper bon pour les plantes.
Même les plantes vertes, pas que les plantes du potager. Hein.
Complètement, même les plantes vertes. Et puis, il y a aussi l'eau de pluie, en fait. On n'y pense pas beaucoup, mais même si on a un petit balcon, on peut avoir ne serait-ce qu'un seau ou laisser un récipient dehors, récupérer l'eau de pluie. Maintenant, il existe aussi des récupérateurs d'eau de pluie qui sont assez faciles à installer. Mais prendre l'eau de pluie pour arroser, c'est ce qu'il y a de plus évident, en fait. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on peut conseiller aussi.
Ok. Si on parle de moments pour arroser, on dit souvent, on a souvent l'habitude de lire qu'il vaut mieux arroser le matin, en tout cas on dit souvent ça au potager. Est-ce que c'est vrai et si oui, pourquoi? Et qu'est-ce que vous conseillez, vous, sur le moment de la journée?
C'est vrai, mais pas tout le temps en fait. Faut plus se poser la question de la saison et se demander pourquoi on arrose à telle ou telle heure. On dit qu'on arrose souvent, il vaut mieux arroser le matin avant 10h de l'automne au printemps, parce que c'est le moment où les températures sont fraîches, mais elles vont après se réchauffer. Donc on va pouvoir arroser à un moment où on n'a pas trop de risque d'évaporation de l'eau. Pour autant, comme les températures après augmentent, la plante ne va pas rester dans l'humidité complètement et ne va pas avoir de risque de champignons, etc., qui se développent quand il y a trop d'humidité. En revanche, quand on passe la saison estivale avec des canicules, des grosses chaleurs, en fait, il fait chaud très, très tôt le matin. Donc, à moins d'arroser à 4h du matin et encore 2h après, il va déjà faire 25 degrés. Il vaut mieux arroser le soir, quand le soleil est presque couché, parce que c'est là où on va éviter le plus l'évaporation de l'eau dans la terre.
D'accord.
Voilà. Donc, et même si les températures restent, les températures en fait restent assez élevées quand même la nuit en été, donc on n'a pas tellement ce risque d'humidité stagnante en fait qui développerait des champignons. Mmh. Donc voilà, vraiment, faut s'adapter plutôt à la saison et faut se dire, j'arrose quand il y a le moins de risque d'évaporation, sans risquer que ma plante soit dans un environnement hyper humide qui, du coup, développerait des champignons.
D'accord. Ça, c'est pour les plantes d'extérieur, j'imagine. Et à l'intérieur, peu importe, on fait un peu comme on veut.
Oui, peu importe. C'est pas, il n'y a pas vraiment de saisonnalité, en fait, dans notre appartement. Donc, tu vois, en hiver, vous mettez le chauffage toute la journée, malheureusement. Donc, voilà, on peut arroser un peu quand la plante en a besoin et quand ça vous arrange au niveau emploi du temps.
Et okay. En intérieur, ce qui est intéressant, c'est que ce soit toujours la même personne qui arrose.
Pourquoi ?
Tout simplement parce que il peut y avoir des doublons. On se dit, finalement, même si je mets le doigt, mais peut-être qu'on n'a pas tous la même sensibilité, je trouve que c'est un peu sec, alors j'arrose, alors qu'en fait, ça a été arrosé il y a 2 jours, etc. Les personnes dans la maison ne communiquent pas forcément ensemble tout le temps.
D'accord.
Donc, nous, on recommande que ce soit la même personne qui...
Bon, ben, faut se partager les tâches autrement, alors, parce que sinon, on sait sur qui ça va retomber à chaque fois, cette
histoire. Ou alors faire une semaine, une semaine, faire un petit calendrier des plantes.
Là, on se met des instructions très claires et on...
C'est vrai qu'on peut se faire aussi un petit calendrier, effectivement, ou une petite feuille sur le frigo avec les plantes qui ont été arrosées et quand, parce que quand on en a beaucoup, parfois, on perd un petit peu le fil, quand même. Hein,
ouais.
On est un petit peu paumé. Ok. Et donc, vous qui êtes des spécialistes du jardinage urbain, c'est vrai qu'en ville, c'est encore un peu plus compliqué l'arrosage, parce que déjà, il y a le fait qu'on cultive hors sol, on en a parlé, les plantes sont dans des pots. L'accès à l'eau qui n'est pas forcément toujours évident, enfin, on n'a pas un tuyau d'arrosage en tout cas, donc faut se débrouiller. Et puis la chaleur et la réverbération qu'il y a dans les immeubles, les cours d'immeubles. Donc, quelles sont vos astuces vraiment dédiées à ces contraintes urbaines ?
C'est vrai qu'en ville, on est bourré de contraintes et il faut arriver à trouver des solutions de partout. Donc, tu l'as très bien dit, avec le zinc, le béton, les îlots de chaleur en ville, voilà, il fait très chaud, donc l'eau va s'évaporer très vite, beaucoup plus vite qu'en pleine terre. On a rarement des arrivées d'eau en extérieur, sur nos petits balcons ou sur nos petits rebords de fenêtres. Donc c'est vrai que ça va être un sujet qui est très important. Et en plus, on sait qu'en été, il faut arroser tous les jours.
Ok, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais oui. Vous conseillez tous les jours parce que c'est en ville ou même...
Pour l'extérieur, hein.
Pour les plantes qui sont
aussi. Mais en extérieur, oui, c'est tous les jours. En fait, là, on le voit, ça s'évapore à une vitesse incroyable. Donc il faut se dire... tous les soirs, je me mets à arroser. D'ailleurs, on le voit bien, hein, quand on se balade dans les rues, on a de l'eau qui nous tombe sur la tête. Pour les personnes rigoureuses qui font ça, bien comme il faut le soir. Et donc, si c'est tous les jours, ça devient compliqué. On ne veut plus partir en vacances. On a l'impression de devenir esclave de ces plantes et il ne faut absolument pas tomber là-dedans. C'est dommage. Mm-hmm. Ou alors, on fait tout mourir, on repart de zéro en septembre. Et ça, on peut vous dire que c'est le cas de nombreuses personnes. C'est dommage pour le portefeuille, mais c'est dommage parce que c'est du vivant qui part à la poubelle.
On va en parler des vacances juste après. Une question à 1 000 euros, je crois.
Mais alors, pour ce qui est du quotidien, des premières solutions très faciles, ça va être le paillage. Donc, il s'agit en fait d'ajouter de la paille, des copeaux de bois, des billes d'argile, même des pots cassés en terre cuite sur la surface de la terre. Et en fait, ça permet de limiter drastiquement l'évaporation de l'eau et donc de maintenir une bonne humidité dans le sol et d'espacer les arrosages. Donc ça, c'est une chose simple, efficace, qui va marcher à tous les coups.
Ça, c'est pour l'extérieur, pour l'intérieur
Les deux.
Les deux, d'accord.
Ouais, c'est très efficace dans les deux cas. Ensuite, on peut aussi installer des œillets et des diffuseurs d'eau. Donc là aussi, c'est pour les deux. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est des œillets et des diffuseurs d'eau.
Mais on peut peut-être expliquer.
Donc, c'est une technique qui est ancestrale, ça existe depuis la nuit des temps. Et en fait, ce sont des bulles en terre cuite qu'on va planter dans le pot ou qu'on va enterrer à fleur de terreau. Donc, tout simplement, pour visualiser, c'est une sorte de petit ballon avec un petit cône qui sort. Tout ça, c'est en terre cuite. Et donc dans ce ballon il va être creux et on va pouvoir mettre de l'eau et rajouter un petit capuchon dessus pour limiter l'évaporation. Donc, on remplit ces ollas d'eau. Et grâce à la porosité de la terre cuite, l'eau, elle va se diffuser dans la terre et permettre aux racines de toujours avoir une source d'eau.
Alors ça, c'est pratique, mais c'est vrai que du coup, il faut en mettre quand même dans chaque pot. C'est un peu, ça qui est peut-être un peu contraignant. Oui.
En plus, c'est joli.
C'est joli aussi, c'est vrai. Les
ollas, des formes un peu différentes. Nous, on travaille avec un artisan qui les fait en forme de champignons aussi. Donc, c'est assez chouette. C'est vrai que c'est devenu un élément décoratif dans l'univers des plantes vertes, en tout cas. Et dans le potager, souvent, ils sont plus profonds. Donc là, on peut carrément passer sur des ollas ou des diffuseurs d'eau à enterrer. Donc là, on ne les voit pas. On voit juste l'orifice au-dessus. Mais il se trouve que c'est vraiment tout un... une sorte de cylindre qui est enterré dans le pot. Et il y a une chose à penser avec ces objets-là, c'est qu'à la première utilisation, il faut toujours arroser le terreau avant d'installer l'oya pour éviter que la plante ne boive l'eau de l'oya en premier.
D'accord.
Ça vaut d'ailleurs pour le paillage aussi. Hein. Surtout, on arrose bien avant de pailler. Et si on fait l'inverse, ça peut être un peu cata.
Et après, une fois que le paillage est en place, là, par contre, on peut arroser.
On arrose pas dessus.
Donc les ollas, ça peut être une solution pour les vacances. J'imagine qu'après, ça ne tient pas non plus un mois. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Est-ce qu'il y a des solutions miracles ou est-ce qu'il y a un moment, il faut rentrer chez soi s'occuper de ses plantes?
Oui, alors pour les plantes, ce qu'on peut faire déjà, c'est les regrouper. En fait, elles s'entraident en transpirant, elles rafraîchissent l'air. Et il y a des transferts hydriques qui se font entre elles. C'est magique. Je peux vous dire, pendant le confinement, on avait toutes nos plantes dans le magasin et c'était incroyable ce qui se passait. On ne pouvait pas toujours passer.
Super.
On les met aussi dans une pièce humide, donc l'idéal c'est par exemple la salle de bain. Attention s'il y a une fenêtre seulement, s'il y a une fenêtre.
Eh oui, elles ont quand même aussi besoin de lumière, pas que d'humidité.
Une lumière, pas directe, mais une belle luminosité. Et en fait, elles sont toujours mieux dans une pièce humide. Comme on l'a dit tout à l'heure, elles ont besoin aussi de ça. Mm-hmm. Doucher les plantes, ça on en a parlé. Et pour finir, pour l'intérieur, on peut faire appel à un voisin. Mais attention, c'est important de donner des instructions qui sont très précises. Donc là, on écrit un petit papier.
On lui envoie ce podcast.
Voilà. Précise, mais au-delà de ça, voilà, vraiment, la personne qui va prêter ses plantes, entre guillemets, elle sait exactement quelle quantité, à l'instant T, cette plante a besoin et à quelle fréquence. Donc, il faut l'écrire. Ça, c'est classique, c'est un problème classique. C'est, ma voisine est venue et elle a noyé toutes mes plantes. Alors, on lui en veut pas, mais on lui en veut quand même, en plus... C'est un truc un peu bizarre. Ou alors, il y a un super site de plant sitting. Nous, on connaît J'aime mes plantes.
D'accord.
Ça peut être une bonne alternative.
Ouais. Je sais qu'il y a aussi parfois des applications d'aide entre voisins qui ne sont pas dédiées aux plantes, hein, mais pour s'échanger des trucs, etc. Et sur lesquels les gens, l'été, je vois passer pas mal de messages. Est-ce que quelqu'un peut passer chez moi? Ça reste quand même la meilleure solution que quelqu'un vienne arroser quand on n'est pas là. Quoi.
Bah, c'est mieux, même comme ça. On peut vraiment voir les plantes, mais comme l'a dit Marion, c'est très important d'être très précis. Donc, vraiment, c'est là, en général, que les plantes sont noyées.
Okay.
C'est pour ça qu'un plant-sitter, alors certes, il faut payer un petit peu, bon, c'est pas grand-chose, mais généralement, ce sont des personnes vraiment fans de plantes, donc ils vont peut-être pouvoir mieux observer nos plantes et comprendre nos instructions.
D'accord. C'est vrai que c'est une bonne idée aussi le plant sitter parce que comme tu dis, le coût est pas non plus hyper élevé et d'un autre côté, quand on a beaucoup de plantes, ça a un coût aussi s'il faut tout racheter chaque année.
C'est, quand même, c'est clair.
C'est dommage, puis c'est du gaspillage. Quoi. Donc, c'est vrai que c'est une bonne idée le plant sitter. Et juste pour finir, parce que sur les vacances, comme c'est une question qu'on nous pose beaucoup, vous avez parlé des plantes d'intérieur et potager, donc on a le paillage, les ollas aussi au potager.
Le voisin, le plant sitter, mais il y a aussi le fait de faire de l'ombre. À ces plantes. Quand on habite en ville, voilà, on a dit, il fait très chaud. Parfois, on a beau hydrater ces plantes, l'air est tellement chaud que on a vite un coup de chaud sur les feuilles de nos plantes. Et en fait, là, il faut arriver aussi à mettre un peu nos plantes à l'ombre. Et de mettre un petit voile, de mettre des canisses ou de les mettre au pied de plantes plus grandes qui, elles, supportent dans tous les cas le soleil direct. Par exemple, ça vaut pour les vacances, mais ça vaut pour la culture de manière générale quand on veut un peu mieux gérer les contraintes de la ville. On va dire planter des tomates et mettez les aromates au pied des tomates pour qu'elles aient cette ombre naturelle de la tomate et qu'elles ne soient pas en plein cagnard, en fait.
Ok, très bonne astuce. Super, bah écoutez, on arrive bientôt à la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter sur l'arrosage avant les deux petites questions finales ?
Alors, c'était juste pour compléter le système d'arrosage pour l'extérieur, mais oui. Quand on est présent cette fois-ci. Quelque chose auquel on ne pense pas forcément quand on est urbain, mais qui est hyper pratique, c'est brancher un tuyau d'arrosage sur un robinet intérieur. Alors, ça paraît compliqué comme ça, mais ça ne l'est pas du tout, parce qu'il existe des adaptateurs entre le tuyau et le robinet de la cuisine, par exemple.
D'accord.
Et ça évite clairement qu'on fasse 20 allers-retours dans la cuisine avec notre arrosoir plein d'eau, on marche, on en fait des flaques un peu dans le salon, des choses comme ça. Ça peut vite devenir un enfer. Et finalement, on se rend compte avec ce petit outil, eh bien, ça peut faciliter la vie du jardinier urbain.
Super. Donc, c'est vrai que j'avais jamais pensé, mais oui, ça paraît tout bête.
C'est ce qu'on a fait à la boutique, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de plantes à l'extérieur.
Ah, j'imagine.
Qu'on rentre et qu'on sort tous les jours. On n'a pas d'arrivée d'eau non plus. Et l'arrosage était un calvaire, vraiment. Et du coup, on a branché ce tuyau et... on revit.
Ah bah super astuce. Ok, et j'imagine qu'on peut en trouver peut-être chez vous de ce type de tuyau.
Alors non, on n'a pas des gros tuyaux d'arrosage avec des adaptateurs. C'est plus même magasin de bricolage.
De
l'adaptateur. Voilà.
Ok.
Mais oui, c'est vrai qu'on pourrait avoir ce genre de choses.
Idée. Bon, en tout cas, il y a les Zoya qui sont dispo chez vous, des jolies petites Zoya. Super. Bon, bah, pour terminer, juste deux petites questions qu'on pose à tout le monde à la fin des podcasts. D'abord, si vous avez une recommandation de livre, documentaire ou film à transmettre aux auditeurs, donc l'une et l'autre.
Alors moi, Alice, je dirais que c'est le livre « La vie érotique de mon potager ».
Ah, oui.
Moi, c'est un titre un petit peu rigolo, mais le livre est fascinant. On apprend tellement, tellement de choses sur la reproduction des plantes, la sexualité des plantes. Et le pourquoi du comment une plante est colorée, a une odeur, comment elle se féconde, à quoi servent les pollinisateurs, etc. Et en fait, je trouve que c'est un monde très complexe qui est finalement expliqué de manière très, très sympathique avec beaucoup d'humour dans ce livre.
Okay.
Voilà, j'ai vraiment adoré ce livre.
Ok, super. Et toi, Marion ?
Alors moi, j'ai beaucoup aimé... un livre de Rob Hopkins, le titre c'est « Et si ?», trois petits points. J'aime beaucoup Rob Hopkins. Là, dans ce livre-là, il propose une vision qui est très positive et ça fait du bien. Il nous montre qu'il est possible d'envisager un autre monde plus cohérent avec nos aspirations. Il propose de faire appel à notre imagination et dans toutes les solutions qu'il présente, la nature en ville a une belle place. Donc, okay. C'est très bien présenté.
Donc, j'imagine que ça te parle. Et pour finir, votre conseil pour voir la vie en vert.
Notre conseil pour voir la vie en vert, c'est... On le dit souvent d'ailleurs en atelier, c'est ne vous dites jamais que vous n'avez pas la main verte.
Ah, merci.
En fait, on ne naît pas avec ou sans main verte. C'est quelque chose qu'on peut totalement développer pour nous c'est en mettant les mains dans la terre en fait qu'on voit la vie en vert. Il faut se lancer, faut faire ses expériences, faut se planter, faut recommencer, faut observer les plantes. Et en fait, le jardinage, c'est pas une science exacte. Il faut s'y mettre pour progresser et voilà, donc on oublie la main verte et juste on se lance.
Et vraiment, soyez convaincus que jardiner en ville, c'est possible. En fait, c'est pas parce qu'on n'a pas de jardin qu'on ne doit pas se sentir concerné par tout ça. En fait, chaque citoyen peut être acteur de la végétalisation de sa propre ville et c'est ça qui est beau. Si chacun d'entre nous fleurit une jardinière à son balcon, on verra tous la vie en vert.
Super, très bonne conclusion. Ok, bah écoutez, merci beaucoup à toutes les deux pour tous ces conseils, tout ce partage d'expérience. On vous retrouvera de toute façon dans le prochain numéro du magazine avec vos conseils, donc SOS Plantes en Détresse. Et puis d'ici là, bonne continuation à toutes les deux, bon été à la boutique et bon arrosage.
Merci beaucoup,
merci Laetitia.
Merci,
à bientôt.
Cette interview est terminée, mais restez en ligne. Maintenant, place au mémo de Vert Magazine avec tous nos conseils pour mettre facilement en pratique le sujet découvert dans l'interview du jour. Suite à cet épisode, vous devez avoir toutes les bases pour bien arroser vos plantes. Voici un mini récap des infos clés à retenir et ensuite quelques astuces pour aller plus loin. Alors les infos clés à retenir, tout d'abord, il n'y a pas de parfait timing pour arroser ou de parfaite fréquence. Ce qu'il faut, c'est surtout observer sa plante. Deux signes importants indiquent que la plante a soif. Tout d'abord, les feuilles et la tige s'affaissent, ramollissent, la plante fait un peu la tête, quoi. Et puis, deuxièmement, le terreau est sec sur plusieurs centimètres de profondeur. Donc pour le savoir, il suffit de mettre le doigt dedans, enfoncer un petit peu le doigt dans le terreau et voir si c'est sec ou si c'est encore un petit peu humide. Deuxième info clé à retenir, les plantes ont des besoins en eau qui diffèrent selon leur type. Donc le plus simple en fait, c'est de se renseigner sur leur environnement naturel pour connaître leurs habitudes. Et si on veut un peu schématiser, si vous voulez retenir des grandes tendances, les plantes tropicales, donc qui sont souvent les plantes vertes qu'on a en intérieur, ont besoin d'un arrosage et d'une humidité important. Donc ça veut dire qu'on les arrose, on les bassine, on les brumise régulièrement. Les succulentes et les cactus ont également besoin d'un arrosage, mais moindre, régulier toutefois, et par contre, pas du tout d'humidité. Donc on va les arroser régulièrement, en plus petite quantité, et par contre, surtout, elles, on ne les brumise pas. Et enfin, les plantes du potager ont besoin d'un arrosage important, voire presque tous les jours en été, notamment en ville. Après, ça dépend de si vous arrivez à bien pailler, à ombrager un petit peu vos plantes ou pas, mais en tout cas, elles ont besoin quand même de beaucoup d'arrosage. Et en revanche, pas d'humidité sur le feuillage. Donc là, on évite de... Déjà, on brumise pas et puis on évite d'asperger les feuilles lorsqu'on arrose parce que ça peut développer des maladies. Troisième point clé, il faut retenir qu'une plante survit mieux à un défaut d'arrosage qu'à un excès d'arrosage. Donc dans le doute, allez-y mollo. Si vous avez trop arrosé ou si au contraire, vous avez un petit peu oublié votre plante et qu'elle commence à tirer un peu la tête, la meilleure solution, c'est de la rempoter. Pour terminer, voici quelques pistes pour aller plus loin et apprendre à arroser moins mais mieux. Tout d'abord, si vous avez la chance d'avoir un jardin, vous pouvez planter quelques arbres. Ils captent l'eau de pluie et l'ombre qu'ils procurent et leur canopée va permettre de limiter l'évaporation du sol. Donc ce sont vraiment des bons alliés pour vos plantes. Ensuite, augmentez le taux de matière organique de votre sol, notamment grâce à des apports de compost par exemple, ça peut être aussi du fumier, ou en semant des engrais verts. Troisième astuce, gardez un sol meuble et bien aéré. Cela facilitera l'infiltration de l'eau en profondeur. Pour cela, il faut penser à le décompacter délicatement sans le retourner. Si vous êtes en jardin, vous pouvez utiliser par exemple une grelinette ou si vous avez des pots avec une simple griffe. Ça permettra vraiment que vos arrosages soient plus efficaces et du coup de consommer moins d'eau. Ensuite, il est important aussi de choisir des espèces et des variétés adaptées à chez vous. Si vous habitez dans la région méditerranéenne, évitez de planter des espèces très gourmandes en eau. Donc renseignez-vous sur l'origine des plantes que vous achetez et leur milieu naturel pour essayer de coller le plus possible à votre climat, à votre sol et à votre emplacement. Ensuite, autre astuce, associez et densifiez les cultures. Cela va permettre de créer un microclimat frais pour réduire l'évapotranspiration et donc optimiser les arrosages. Par exemple, c'est très utile au potager d'avoir des plantes un petit peu rapprochées. Pas trop non plus, il faut trouver le bon équilibre pour pas trop favoriser les maladies, mais on peut densifier un petit peu. Et pour ce qui est des plantes vertes, vous pouvez recréer cet effet en fait en rapprochant les pots les uns des autres. Comme ça, elles vont partager leur humidité. Dernière astuce pour arroser moins mais mieux, essayez de trouver des alternatives à l'eau potable. Si possible, n'utilisez pas d'eau du robinet, en tout cas d'eau neuve, pour arroser, utilisez plutôt des eaux de récupération, ça peut être toutes vos eaux de cuisson de légumes, si l'eau n'a pas été salée. Ça peut être vos restes de thé, de tisane, ça peut être l'eau du bain, l'eau que vous faites couler aussi quand vous attendez qu'elle chauffe, par exemple, vous pouvez placer un petit récipient pour la récupérer. Et vous pouvez également, bien sûr, mettre en place des systèmes pour récupérer l'eau de pluie. Même juste quelques gros arrosoirs qu'on place sur le balcon sont déjà un premier pas et permettront d'économiser un petit peu d'eau. Voilà, vous savez tout sur l'arrosage. À la prochaine, salut! La Voie Verte, c'est fini pour aujourd'hui. Vous retrouverez toutes les informations concernant l'épisode dans la barre de description et sur notre site www.vertmagazine.com, rubrique podcast. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous et à nous laisser un avis positif sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous souhaitez mettre un peu plus de vert dans votre vie, on ne peut que vous conseiller de vous abonner à Vert Magazine, le mag des néo-jardiniers. Tous les numéros et les abonnements sont disponibles sur Veir Magazine, veirmagazine.com. Merci et à bientôt.